Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast. Je suis Rosa Burstein et vous écoutez Les mecs que je veux ken. Je suis actuellement en rodage de mon tout nouveau spectacle, c'est complet à Paris au Cartel, mais vous pouvez me retrouver prochainement en tournée à Montpellier, Lille, Bruxelles, La Roche-sur-Yon, Ergué-Gabéric, Aix-les-Bains, Istres, Décines et Saint-Étienne. Tous les liens pour réserver sont sur mon site internet. À bientôt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Les mecs que je veux ken.
Mes libellules, mes papillons pailletés. Aujourd'hui, nous recevons Charline Vermont dans le podcast du compte Orgasme et moi aux 641 000 abonnés sur Insta, créé seulement en 2019. Avant, Charline était juriste d'affaires. Aujourd'hui, elle est formatrice en santé sexuelle, praticienne en sexothérapie et autrice du best-seller « Corps, amour, sexualité, les 100 questions que vos enfants vont vous poser », paru en septembre 2021 chez Albin Michel. Enfin, Charline sera à mes côtés à la rentrée prochaine dans l'émission Orgasmique diffusée sur Teva, où elle interviendra en tant que sexperte avec une autre Charline qu'on adore, Charline Gaillot du conte Charline Sage-Femme. Nous avons enregistré cet épisode lundi 11 avril, alors que nous étions encore dans la préparation de l'émission. Le premier tournage a eu lieu le 16 mai. Pendant tout ce temps, je vous cachais cette activité intense. Les tournages, étalés sur mai, juin et juillet, étaient très prenants. Je suis donc contente d'avoir pu rencontrer Charline au calme dans mon podcast avant. Vous verrez, je suis toute bafouillante et intimidée au début, puis je bois les paroles de Charline, brillante, savante et touchante. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir et j'espère que si vous êtes déjà fan d'Orgasme et moi, cet épisode vous permettra de connaître Charline encore plus intimement. Bonne écoute.
Marie, elle suit, tu sais, mon chemin vers l'autorité naturelle, tu vois, qui passe par des moments où je suis genre désagréable, des moments où je pleure, des moments où je suis froide, des moments où je suis trop gentille, et je progresse ou on arrive à quelque chose.
C'est l'assertivité.
C'est ça.
Mais ça, c'est un vrai chemin.
C'est un chemin.
Quand on est une personne sexisée, c'est...
C'est ouf. Poème.
J'ai cassé le truc, vas-y, je vais faire un carreau.
Poème pour Charline. Charline. Rencontre avec une surdouée du cul. Je connaissais le conte Orgasme et moi, bien sûr, j'étais déjà fan de Charline, quand j'ai osé lui écrire en 2020, avant le deuxième confinement, pour l'inviter à mon spectacle au Point Virgule. Mais à peine mon message envoyé que les théâtres referment. Charline vient donc au Point Virgule en juillet 2021, et ses stories enthousiasmantes me donnent énormément confiance. C'est une validation incroyable. Puis on se revoit récemment, à l'occasion d'un projet sur lequel nous devons encore être discrètes à l'heure où nous enregistrons ce podcast. Et c'est le coup de foudre pour Charline en personne. Je suis scotchée par son intelligence, sa pensée en arborescence, sa culture cul infinie. J'ai tellement de questions pour Charline. Comment fait-elle pour gérer les centaines de messages qu'elle reçoit par jour? On en a déjà un peu parlé, mais as-tu trouvé une solution pour rester froide face aux haters et que ça ne t'atteigne pas? Réussis-tu à faire des pauses d'Instagram? Y a-t-il encore des choses sexuelles que tu n'as jamais testées et qui t'intriguent? Merci Charline, toi dont le livre est déjà un best-seller et qui ne donne pourtant que très peu d'interviews. Merci de venir dans mon podcast.
C'est le moment où on fait cheers.
Cheers.
Bah, merci pour l'accueil. Ouais. Merci pour le poème. Oui, et ben juste le coup de foudre, il est mutuel.
Oh.
Ouais, je me souviens très bien quand je t'ai vue sur scène en mode bah voilà, j'ai pas non plus été à plein de spectacles parce que j'ai pas beaucoup de temps et pour le temps le tien, je me suis dit ok, cette fille j'ai envie de l'avoir sur scène. Je suis venue avec une personne chère à mon cœur et en fait on a explosé de rire pendant plus d'une heure Et vraiment, en fait, les gens sont sortis de là avec une espèce de petite valise de joie. Enfin, simplement la joie. Et en fait, ça atteint quelque chose qui est, je trouve, central, essentiel dans notre vie d'aujourd'hui. Mmh. Voilà, un peu de joie et pour rayonner à notre tour. Merci pour ça.
Je me souviens, en plus, t'étais sur le côté, au point virgule, et heureusement que je t'ai pas reconnue, sinon j'aurais été tellement intimidée.
Et ben, tu sais que t'es hyper douée, parce qu'en fait, t'as un regard, tu balayes les gens du regard, et ça, c'est honnêtement, je pense que les grands artistes savent faire ça. En fait, moi, j'ai eu l'impression que tu m'avais reconnue.
On se sent regardé.
On se sent valorisé, chacune, en tant que spectateur. Et c'est incroyable que t'arrives à faire ça dans une salle où il y avait quoi, 150 personnes?
Ouais.
Et ben franchement, chapeau. En
tout cas, 100 personnes. Le point virgule, c'est 100 places. Mais c'est vrai que ce soir-là, il y avait du monde. Et ouais, non, c'est vrai que j'ai trop hâte que tu découvres, je sais pas si tu auras le temps de venir à la nouvelle scène, mais ce lieu, tu sais qu'il y a un cabaret burlesque aussi derrière.
Ok.
Et c'est incroyable, il y a des rideaux rouges avec des petites paillettes, c'est sur une péniche, c'est hyper, c'est encore plus glamour et féminin que... Enfin, en même temps, je dis ça... Je lis ton livre, évidemment, et même sans avoir d'enfant et sans en être une, je trouve que c'est vrai que ça remet sur les questions du féminin et du masculin. C'est vrai de lire écrit aussi simplement à l'adresse d'un enfant, c'est-à-dire que vraiment, tu as envie de supprimer du langage tout ce qui est cliché par rapport au féminin et au masculin. Mais c'est un chemin aussi, hein.
Alors, c'est pas à ton... Ouais, alors déjà, il y a effectivement les stéréotypes de genre. Il y a aussi la binarité de genre dans laquelle on a été élevé. Et effectivement, aujourd'hui, c'est une invitation, en fait, à réfléchir, à se questionner et à autoriser aussi nos enfants, en fait, à pouvoir s'autodéterminer en conscience, librement, et de les accompagner là-dedans. Et voilà.
C'est clair. Et c'est vrai que toi, d'ailleurs, t'étais quel type de petite fille?
Ah, c'est intéressant comme question.
Moi, j'avais posé ça.
Je sais pas, je pense que comme pas mal d'enfants, il y avait une facette que tu donnes à voir et une facette de qui tu es. Enfin, j'espère qu'on avait... Enfin, je sais pas, moi, j'avais plein de facettes différentes.
Ok.
Je me souviens que tu t'avais parlé d'une facette qui était peut-être la plus cachée, finalement, en fait, de moi. Mm-hmm. Et qui a pris corps, en fait, à 36 ans sur le compte. Tu sais, les gens, ils me disent souvent, Charline, pourquoi tu nous répètes en permanence que le plus important dans la sexualité, c'est pas l'orgasme, c'est effectivement de partager un moment d'intimité, de complicité, de plaisir. Et pourtant. Et pourtant.
Orgasme et moi. Mais c'est le nom du compte.
Orgasme et moi. Mais pourquoi? Et encore, il y a quelqu'un qui m'a posé la question ce week-end.
Ok.
Et en fait, alors j'ai pas tout élaboré une réponse aussi complète que celle-ci, mais j'ai dit en fait, c'est mon chemin personnel. C'est-à-dire moi personnellement. Parmi toutes les facettes de qui j'étais quand j'étais enfant, il y a notamment une période de ma vie où j'ai vécu... mes parents se sont séparés dans des conditions qui ont été assez difficiles.
Tragique.
Ouais, tragique, avec de la violence. Et en fait, au point que mes grands-parents... on a même été sortis de chez nous. C'était pas des conditions... pour des enfants. Et en fait... tout au long de cette période, moi, il y avait un moment qui m'appartenait qu'à moi, où j'avais cette capacité, pour moi, c'était un super pouvoir, de m'extraire complètement de ce que je pouvais vivre, violent pour un enfant, en tout cas. Et il suffisait, en fait, quand j'étais dans mon lit, quand on était tout feu éteint, à ce moment-là, il suffisait que je touche. Alors, j'ai appris plus tard que ça s'appelait le clitoris. Tu vois, je caressais mon clitoris comme Aladdin, tu sais, caresse la lampe. Et tout d'un coup, en fait, c'est comme s'il y avait une espèce de bulle de lumière, en fait, et de douceur et de plaisir, de joie qui m'entourait instantanément. Une espèce de bulle protectrice qui m'envoyait que du bon, quoi, et que du chaud. Et je caressais jusqu'à ce que ça soit... que ça explose de plaisir et je m'endormais en fait dans une espèce de je trouve ce truc complètement sublimé, magnifique et pour moi en fait ça a été mon premier contact avec la sexualité, donc c'est ce qu'on appelle la masturbation infantile. Je rassure tout de suite, les chiffres, c'est 40 à 80% des enfants prépubères qui se masturbent. Donc voilà, dire qu'il ne faut pas parler aux enfants de sexualité, j'ai envie de dire, c'est un autre sujet. Mais moi, en fait, j'ai grandi avec ça. Et en grandissant, pour moi, la sexualité, c'était une manière, parmi plein d'autres d'ailleurs, de me connecter à la fois à moi et puis aussi à autrui. Et c'est resté une espèce de fête, de rencontre, de joie, en fait. On peut parler ensuite d'enfants neuro-atypiques.
Ouais.
Et effectivement, quand tu pars dans tous les sens, quand il y a des pensées qui traversent en permanence, il y avait un endroit où tout se calmait instantanément, que je sois seule ou que je sois avec d'autres personnes, c'était la sexualité. Tout s'arrête et je plonge. Je suis complètement dans l'instant présent, complètement dans mes sensations, dans le plaisir qu'on partage, dans la connexion avec moi-même, avec l'autre. Et là, et pour moi, c'est... Enfin, voilà. Et l'orgasme aussi. Et du coup, voilà. C'est
beau. C'est une scène de film. On t'a jamais encore proposé d'écrire un film sur ta vie ?
Non.
Non ? Je crois que je vais te le proposer officiellement. Parce que pour moi, c'est vraiment une scène de flashback. Qui raconte tellement de choses sur le héros, l'héroïne du film, que t'entends en fond les parents se disputer et que l'enfant, pour s'endormir, pour se calmer, pour faire une bulle, se touche. Je trouve que c'est incroyable, quoi. C'est vrai qu'on voit souvent, en effet, les enfants se réfugier, mais ça n'a jamais été montré, se réfugier par le plaisir.
Ah, moi, c'était... Et en fait, ce que j'ai dit aussi... une amie, mais je dis en fait, pour moi, j'ai la sensation que, je sais pas si c'est l'orgasme qui m'a sauvée, tu vois, mais j'ai cette sensation de, en fait, dès qu'il y a quelque chose qui, voilà, j'avais un lieu immédiat où me réfugier, en moi-même en l'occurrence, ouais. et en fait, là-dedans, je savais que je pouvais tout oublier, en fait, je pouvais tout oublier, tout allait redevenir tout doux, tout beau. C'était le plaisir, c'était l'orgasme. C'est ce que j'appelle mon super pouvoir.
Ouais, et c'est un super pouvoir. Et c'est aussi ce dont on discutait la dernière fois, c'est que ça m'étonne pas que tu sois une surdouée du cul, parce que t'es quelqu'un d'hyper intelligent et je crois qu'il y a un lien. C'est-à-dire que même si le sexe, on peut croire ou penser que c'est quelque chose d'hyper animal, instinctif, primitif et donné à tout le monde, certes, mais qu'en fait, pour les gens comme toi, donc... HPI, enfin je sais pas comment dire, très intelligent, et il y a aussi un refuge dans le sexe parce que c'est une forme de méditation. C'est le moment aussi où les pensées s'arrêtent, où tu peux te connecter à quelque chose de... Tu vois, je sais pas si je dis ça un peu au hasard, mais...
Ouais, et puis ensuite, moi, j'ai voulu pousser la réflexion plus loin. Il faut lire, ça s'appelle Sex Down, c'est le livre de Chris Ryan et Casilda Jetta,
okay.
Qui a été traduit l'année dernière, qui s'appelle Au commencement était le sexe, où en fait, il analyse la place de la sexualité au sein de l'espèce humaine. Et si tu veux, pour faire clair, la plupart des autres espèces animales pratiquent la sexualité uniquement dans un vue, en vue de se reproduire.
Mm-hmm.
Alors ensuite, on observe évidemment des pratiques masturbatoires chez les animaux. Mm-hmm. C'est ça, hyper intelligent.
Ouais.
Chez tous les mammifères se branlent, se masturbent.
Génial.
Et ensuite, la sexualité avec autrui, en revanche, quand c'est entre partenaires, c'est souvent dans un objectif reproductif. Et quelque part, l'espèce humaine, on estime qu'au cours de sa vie, le sapiens aura entre 2000 et 3000
partenaires,
relations sexuelles.
Ok.
Donc, des interactions sexuelles. Alors, pour moi, je peux poser tout de suite le truc. Hein. Une relation sexuelle, c'est du sexe manuel, c'est du sexe oral. C'est, voilà, évidemment, on s'éloigne complètement...
De la norme pénétrative.
De la norme pénis-in-vagina. On n'est pas là-dedans. On est sur tout l'éventail, tout le spectre possible que nous offrent nos corps et nos esprits. Et il y a environ 2 à 3 enfants sapiens par habitant, c'est le taux de reproduction, enfin je sais pas comment on appelle ça, sur la Terre. Ce qui signifie concrètement qu'en tant que sapiens, on va avoir à peu près un rapport sur 1000 qui est un rapport en vue d'une reproduction reproductive. Donc en fait, 999 rapports sur 1000, en réalité, on vient chercher autre chose.
Bien sûr.
Alors que vient-on chercher ? Pourquoi autant de sexualité chez les sapiens ? Et en fait, clairement, Chris Ryan et Casilda Jetta disent, en fait, est-ce qu'on aurait pu faire société ? Est-ce qu'on aurait pu devenir l'espèce qui a fini par dominer, en fait, la Terre, si on n'avait pas eu le sexe, la sexualité, pour cimenter, pour faire société, pour construire effectivement des tribus, et puis ensuite vivre tout ce qu'on a pu vivre de révolution agricole, cognitive, etc. Voilà, donc c'est hyper intéressant en fait de s'interroger là-dessus quelque part, enfin, peut-être la manière avec laquelle on pratique la sexualité et ce qui fait de nous, justement, des animaux encore un peu plus spéciaux en fait, que le reste du règne animal.
Voilà. Ouais, la notion de plaisir. Et c'est marrant parce que j'en discutais récemment avec un ami humoriste et pas tout à fait déconstruit, pire que moi. C'est moi, je suis entre deux milieux. Le milieu du stand-up où je passe pour genre la féministe radicale et le milieu du podcast avec des influenceuses sexo où je suis la grosse bigarre, pas déconstruite, l'hétéro de base à la ramasse, tu vois. Donc bon, je navigue entre ces eaux et cet ami humoriste, lui, me disait « Ouais, mais quand même, les hommes et les femmes, on n'est pas pareils. Il y a les mâles et les femelles. » Et d'ailleurs, il dit « Moi, je vois bien, un chat et une chatte ne se comportent pas de la même manière, n'a pas les mêmes chaleurs, les mêmes envies. » Et il disait qu'en gros, je pense sa thèse, c'était qu'on en aurait moins envie que les hommes, moins tout le temps, moins... Et j'ai pas su quoi lui répondre, tu vois, à ce moment-là. Parce qu'il disait, mais si, nous, on veut tout le temps et c'est visuel. Alors, il y a ce cliché comme quoi les mecs, ils ont... besoin de voir pour avoir envie, et comme quoi, est-ce que nous, il nous faudrait un truc en plus ? Est-ce qu'il nous faudrait du discours ? Est-ce qu'il faudrait qu'on admire ? Enfin, tu vois...
En fait, je pense qu'on est, on est très construit, enfin, on est quand même...
Formaté ?
Ouais, enfin, on est conditionné par une société dans laquelle on grandit, qui est foncièrement une société sexiste, patriarcale, où on n'a pas d'emblée les mêmes droits, les mêmes injonctions. Tu sais, hein, enfin, ça marche dès la crèche. Ouais. En fait, on a analysé en fait ce que les personnes qui travaillent en crèche disent aux enfants en fonction de leur genre, en tout cas du genre assigné à l'enfant.
Ok.
Et effectivement, au bébé en fait. Hein, donc, on va dire aux personnes assignées filles, oh comme elle est mignonne, comme elle est gentille, elle est polie, elle est calme. Ça, c'est les mises en voilà. Et on va dire aux personnes assignées garçons, oh comme il est vif, il est fort, il est vigoureux, il est coquin, etc. Bon, on est d'emblée en fait conditionné, sociabilisé, et c'est vrai en fait. Finalement, enfin, qu'est-ce que seraient nos vies en fait, nos corps, nos envies, nos excitations, nos désirs, dans une société où on abolit en fait toutes ces normes de genre. Et on est enfin un peu considérés comme des personnes avant d'être directement normés en fonction du sexe assigné à la naissance, ou du genre. Ouais. Donc, ouais.
Bah ouais, c'est vrai. J'avais du mal. Il me disait, il était persuadé qu'il y avait des comportements différents entre mâles et femelles.
Ensuite, moi je ne suis pas experte. Hein. Enfin, ensuite, je ne suis pas biologiste pour le coup. Mais il y a sans doute... on sait que la testostérone quand même est un... Et une hormone qui met dans un état d'excitation. Mes potes trans qui prennent de la testostérone, effectivement, témoignent souvent d'une augmentation d'un état d'excitation. Ensuite, excitation et désir sont deux choses différentes. Qui dit excité ne dit pas passage à l'acte. Au-delà en fait des processus endocriniens, il y a également une sociabilisation qui est très différente. Et c'est voilà. Donc
Mais oui, c'est intéressant cette question-là. Et il y a la part biologique et la part sociétale. Et attends, aujourd'hui, tu as partagé un truc sur le pamplemousse,
le
grapefruiting.
Ouais.
J'ai cliqué sur le lien, mais ça voulait pas.
Ça voulait pas. En fait. tu utilises un pamplemousse. Tu coupes les extrémités.
D'accord.
Et puis ensuite derrière, tu fais un trou. Ensuite, tu choisis le diamètre, mais il vaut mieux quand même un bon diamètre. Tu fais un trou de part en part.
D'accord.
Et ensuite, tu évidemment avec le consentement de la personne à pénis, dont tu as envie de t'occuper. L'idée, c'est que il faut que le sexe soit en érection pour pouvoir utiliser le pamplemousse.
D'accord.
Donc derrière, avec tes doigts, avec ta bouche, avec tout ce que tu veux, ou avec des paroles, n'est-ce pas parvenir à avoir un sexe en érection, un pénis en érection. Et une fois que le pénis est en érection, tu peux le faire glisser dans le pamplemousse.
Incroyable.
Et du coup, c'est une fellation qui se déroule avec ce pamplemousse. Et que tu peux serrer, que tu peux moduler, etc.
Et ça fait du jus.
Ça fait, voilà, c'est ça, franchement.
T'imagines.
Dans votre
le
salle
jus de pamplemousse.
Faites-le dans la salle de bain, enfin, c'est pas ou dans la baignoire, ou dans la cuisine.
Ouais, ou avec un bol en dessous.
Exactement, avec un téléphone. tapis en dessous. C'est juste une variante.
T'as testé ?
Écoute, j'ai testé une fois.
Ouais.
C'était très drôle parce qu'on en a foutu partout. Effectivement, ça pique.
Ah oui, ah zut,
ouais,
oui,
faut
justement.
Faut faire attention, ouais. En fait, si vous avez la moindre... Enfin, ne pas pratiquer si vous avez... Bah, vous savez ce que c'est qu'une afte et manger pamplemousse, voilà, ouais. C'est tout. Voilà.
Oui.
Donc, si vous avez la moindre coupure, faites attention. Mais pour le reste, c'était une sûreté, en fait. Et là, on va... C'était une bonne partie de fou rire. Et c'est peut-être aussi pour ça, tu sais, la particularité du dimanche confession.
Ouais.
Qui est en général une bonne partie de fou rire.
Ouais.
Moi, c'est un... Enfin, voilà, j'ai commencé il y a 3 ans ce dimanche confession parce que j'avais lu la BD de Si.
Okay.
Tu vois laquelle ?
Non.
Le vrai sexe de la vraie vie.
Okay.
Il y a un chapitre qui s'appelle l'effet du cul. Et je l'avais mis en story, d'ailleurs. Je lui ai demandé, est-ce que tu m'autorises à partager cette planche ? Oui, oui. Je partage la planche. Et ça se finit par, on a tous des fails du cul, tous des fails du cul racontés. Alors du coup, je me suis dit, ok, dimanche soir, la déprime. À cette époque-là, moi je travaillais à temps plein, enfin c'était dans un job un peu sérieux et tout, comme tout le monde, je crois dimanche soir c'est compliqué.
Ouais.
Et je me suis dit, dimanche confession, racontez-moi vos fails du cul. Et là, c'était tellement extraordinaire. Et ben ça fait, écoute, c'était en mai 2019 la première, donc là ça fait 3 ans en fait que tous les dimanches, il y a cette espèce de prime.
De rendez-vous.
On se donne rendez-vous, c'est le dimanche à 21h, c'est sur le compte, et il y a des bonnes tranches de fou rire, et, ou alors de chaleur. mais j'aime bien le fou rire parce que quelque part tu reviens à ce qu'on disait tout à l'heure, à l'essence de la connexion, enfin vraiment... Enfin, quand je dis partager un moment d'intimité, de complicité, vraiment, à partir du moment où il y a un fou rire, on est pour moi, c'est peut-être les moments les plus sexuels.
Ouais.
On est au cœur de la connexion. On est dans ce qu'il y a de plus chouette, en fait. Mmh. On revient à la joie, on revient à quelque chose qui nous relie particulièrement et qui fait que...
L'intime, la complicité.
Vraiment l'essence, pour moi, de l'intime et de la sexualité.
Et petite question, il ne faut pas mettre un pamplemousse sur la chatte, ça pique.
Alors moi, je ne le ferai pas. Je n'ai pas essayé, en fait.
Mais parce que tu sais, dans le livre de June, je crois qu'elle parle à un moment de mettre une pêche. J'ai testé et j'ai eu mal. J'ai demandé au mec, je lui ai dit, mets-moi une pêche, un fruit, pour que quand il me lèche, il y ait le goût du fruit.
Yes.
Mais en fait, ça m'a irrité de ouf.
Ouais, après. Il faut faire hyper gaffe. Enfin, ouais. Moi, je sais que j'ai une
fleur. C'est plus sensible une vulve qu'un pénis.
Alors moi, je sais, je vais parler pour ma... Pour ma part, j'ai une flore vulvaire et vaginale ultra sensible. Et d'ailleurs, mais pour moi, c'est un vrai thermomètre, d'ailleurs.
Ah ouais.
En dehors des...
De juger le parti.
C'est-à-dire, pas pour moi, c'est-à-dire que je sais quand, par exemple, ma flore vaginale, elle se dégrade.
Uh-huh.
Tu le sens parce que... ça devient gênant, enfin t'as une gêne.
Mm-hmm.
Et ben je sais que faut que je suis trop fatiguée, que j'ai trop de stress, que il y a une situation gênante dans ma vie. C'est incroyable à quel point. Alors moi, c'est une passion pour moi.
Ouais,
je suis capable de te donner mon niveau de fatigue en fonction mais voilà, pour moi la flore vaginale est un signe de bonne santé, et quand je vais bien, elle va bien.
Ouais.
Et dès que je suis fatiguée, dès que je suis stressée, mais ça c'est chimique, hein.
Ouais.
Je veux dire, cortisol, ça bloque ça bloque trop de cortisol, tu diminues tes oestrogènes, donc en fait les glandes qui sont sur le col de l'utérus qui fabriquent ce mucus protecteur, les leucorrhées, travaillent beaucoup moins, la glaire cervicale et du coup, en fait, ton pH vaginal, il n'est plus acide, alors qu'il doit rester acide pour que toute la bonne flore s'épanouisse, fleurisse, soit pompidop. Et ben non, ça marche plus quand t'as trop de stress, en fait, et ça dérègle tout. Et du coup, à partir du moment où c'est plus acide, c'est la voie ouverte à des infections, à d'autres germes qui vont venir, des germes pas gentils du tout, qui vont venir et vont dire « Ah !»
Il y a un terrain.
Il y a un petit terrain. Et si on allait les embêter, on va se faire... Et du coup, pour moi, c'est incroyable à quel point, pour le coup... Ouais, je suis hyper... Bon, je pourrais dire ça. J'ai l'impression d'avoir une relation. relation avec mon clitoris, une relation à ma chatte, à mon vagin et tout ça. Enfin, pour moi, c'est le terrain de l'intime.
Mmh.
C'est un terrain incroyablement riche en informations sur toi-même.
M'en parle pas.
Tu sais, moi, ensuite, je te parle aussi de patiente, par exemple.
Oui.
Quand t'as... quand tu as des patientes qui, à un moment dans la relation, se mettent à avoir des mycoses ou des vaginoses à répétition. Et puis, tu vois, ensuite, il y a des antifongiques pour les mycoses, tu as des antibiotiques pour les vaginoses, etc. Mais qu'est-ce que tu fais, en fait, quand le truc s'installe et tu n'y arrives pas? Les probiotiques, rien n'y fait, en fait. C'est hyper intéressant à analyser en termes de... Enfin, voilà, moi, j'aime
à quoi ça fait barrage.
Ouais, exactement. Pourquoi ça empêche l'entrée? Pourquoi ça empêche l'intimité? Enfin, en tout cas, ouais.
Et t'as le temps de recevoir des patientes entre la gestion du compte et donc la pratique?
Eh ben, je fais des visios, ouais.
Ok.
En fait, ça c'est... Ben, on revient au confinement. Alors, le confinement. Confinement, c'est un moment clé parce que moi, à ce moment-là, j'ai lâché mon job pour me consacrer au compte, sachant que j'ai fait le move tellement tôt. C'est-à-dire, je suis allée voir ma boss en avril 2019, 2 mois après avoir créé le compte.
Ouais.
J'ai 4000 abonnés. C'est ridicule hein, quand tu y penses. Et du coup, j'arrive dans son bureau, je fais « Marianne, écoute, assieds-toi. » Elle prend peur, elle s'assoit, elle fait « Qu'est-ce qui se passe ?» Je fais « Écoute, j'ai créé un compte Instagram. » Elle me regarde, elle explose de rire.
Elle ne te prend pas du tout au sérieux.
Et je fais « Ouais, en fait, ce n'est pas un compte perso. » Elle me fait « Bon, ça parle de quoi ?» Je dis « Bah, ça parle de sexualité. » Elle sort son téléphone. « Comment ça s'appelle ?» Et là, on voit 4000 abonnés. Je fais « En fait... En fait, je ne sais pas comment te le dire, en fait, Marianne, mais c'est la vibration que j'attendais depuis toujours, elle est là, en fait. C'est-à-dire, j'ai mon travail, j'ai 3 enfants, à cette époque-là, je jouais de la guitare électrique dans un groupe de rock, je faisais du chant lyrique, je faisais de la pole dance, j'étais voilà, enfin, complètement toujours à fond dans 1000 trucs différents, et tout d'un coup, je crée ce compte, et ça polarise tout, c'est-à-dire, j'ai... Enfin, même quand je me revois en répétition, que ce soit de la guitare, du chant, la seule chose qui m'intéresse, en fait, je suis sur mon compte. Je suis en train de créer du contenu, je suis en train de répondre aux gens. Et là, en fait, c'est un truc qui me dépasse. En fait, toutes mes pauses déjeuner, toutes mes pauses tout court au travail deviennent, en fait, je suis sur le compte. Le week-end, le soir, je me lève aux aurores pour répondre. Enfin, c'est de la folie, en fait. Toutes mes vacances, je suis dessus. Et là, je fais, ok, il y a un truc, parce que cette vibration réellement que j'avais quand je travaillais sur le compte, je ne l'avais jamais ressentie à aucun moment dans ma vie. Et j'ignorais que j'attendais cette vibration. C'est-à-dire, tant que tu ne l'as pas rencontrée, tu ne savais pas que tu l'attendais. Et tout d'un coup, elle est là. Et l'entrée en résonance est si forte qu'en fait, tu ne peux pas l'ignorer. Elle s'est imposée à moi. Et du coup, j'ai fait, je vais m'arrêter. Je vais prendre un congé sans solde et je veux faire ça en fait.
Incroyable, t'as suivi l'appel.
Ben oui, mais c'est complètement ouais. c'était complètement
mystique.
Ouais, comme si et surtout enfin inconscient, c'est-à-dire qui s'arrête de bosser pour un compte à 4000 abonnés.
Comme si t'étais choisie comme prophétesse du cul.
Mais je sais pas pourquoi. Non, mais moi j'ai plutôt l'impression. Enfin, tu vois, mes potes ils te diront non mais ça c'est normal. Enfin, Charline elle est bonsaï. C'est encore un truc de plus quoi.
Une nouvelle oui. Obsession.
En fait, ouais, c'est ça. C'est de cet ordre-là, c'est-à-dire. Ouais. C'est marrant. Tu m'as capté. Mais ouais, il y a un côté, mon papa il m'a dit, toi t'es une personne à vérité successive. Donc en fait, mes proches, mon entourage, m'a toujours vu partir complètement à donf en fait, dans des trucs. Et avec toujours cette espèce d'espoir un peu bizarre que, en fait, qu'à force de tester, je vais trouver mon truc, tu vois, et m'y épanouir toute ma vie. Et parce que... Quand ils me voient, enfin en fait, typiquement quand je fais du chant lyrique, ben forcément faut que ce soit du haut niveau. Quand je fais du ski, forcément je vais faire les championnats de France universitaires. Quand je fais de l'escalade, forcément je vais partir vivre à Chamonix et ne faire, enfin voilà.
High achiever.
Et j'ai besoin, enfin c'est pas que j'ai besoin en fait, c'est que je ne sais pas faire autrement. Dire j'ai envie des gens qui savent manier la tempérance et l'équilibre. Ouais. Je ne sais pas faire ça. Quand il y a quelque chose qui est là, ça me dévore en fait. Et je ne le vis bien qu'en le vivant pleinement. Et c'est comme, voilà, comme mes amitiés, comme mes amours, c'est comme ça. Et du coup, j'ai fini par leur dire, mais vous savez en fait, arrêtez, abandonnez. Vous n'avez pas pigé, abandonnez tout espoir. Moi, c'est pas mon truc, c'est pas de trouver ma voie. Ce qui me fait kiffer, c'est réellement l'exploration en elle-même. Donc je vais explorer un sujet Et voilà, et je vais vibrer comme personne ne sait vibrer sur ce sujet-là. Et puis peut-être qu'un jour, il y aura une autre vibration. Et voilà, je ne sais pas où je serai dans 5 ans ou dans 10 ans. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand la vibration elle arrivait, c'était un niveau que je n'avais jamais connu. Bref, donc...
Très puissant.
Ouais, donc je suis sur le compte, le confinement arrive. Et là, tous les gens sont sur leur téléphone. Ouais. Et le compte, c'était quasiment du H24. J'avais presque l'impression de tenir un média toute seule, tu sais. Et donc, à créer du contenu, créer des lives, il y avait quoi? Il y avait 2-3 lives par semaine. Il y avait des stories en permanence. Il y avait des messages en permanence. Je leur disais dans les lives, si vous êtes seul, si vous vous sentez pas bien, écrivez-moi. Ne restez pas seul.
D'accord.
Je vous promets, je vais vous répondre. Et si tu veux... Et voilà. Et
c'est là que ça... Tu sais, mars 2020, début du premier confinement, t'es à combien d'abonnés?
Tu vois, j'ai fêté les 100 en janvier 2020.
T'avais 100 000 abonnés déjà.
Mais à cette époque-là, ensuite, bon, voilà, il y avait 20 000 personnes qui arrivaient par mois, tu vois, à peu près.
C'est énorme.
En fait, je ne m'en rends pas compte, mais il paraît que c'est énorme.
Énorme.
Et donc, voilà. Et typiquement, oui, un an plus tard, on était à plus de 300 000, ouais.
D'accord, donc c'est même enfin, pas que ça a doublé. C'est d'un coup, les confinements, ça a pris une ampleur. Ouais.
Tu vois, de mars 2021, donc un an après, on a franchi les 400 000.
C'est fou.
En fait, oui, c'est fou. Mais du coup, voilà. Mais moi, j'ai été... là, en permanence, pour ma commu. Et on a fait tribu, on s'est soutenus les uns les unes les autres. Quelque part, on a vraiment aussi, on s'est serré les coudes, on s'est fait rire, on s'est chauffé, on a partagé nos expériences, nos fantasmes, nos nostalgies, nos espoirs, nos tout. Et il y a un truc, en fait, très spécifique, presque au sens sociologique, enfin de tribu au sens sociologique, en fait, de cette espèce de. Voilà, de, à la fois une forme de. Enfin, on est, j'ai envie de dire, c'est une espèce de mix entre les bisounours du cul et un côté très candide, en fait.
Oui.
Très.
Naïf.
Très naïf, enfin, vraiment. Et en même temps, un truc un peu geek, un peu nerdy du cul, c'est-à-dire, quelque part, si tu viens là, c'est que quelque part, tu as envie de savoir, de comprendre comment ça fonctionne, tu as envie d'informations, et le fait que je cite mes sources, je donne les articles scientifiques en story, donc tu cliques sur le lien si tu veux lire entièrement l'étude, l'article scientifique du sujet. Donc il y a un côté où les personnes qui sont des nerdy, des vrais geeks qui veulent avoir accès aux sources, quand ils me suivent, elles me suivent, savent que j'ai une démarche. Merci mes deux parents médecins. J'ai une démarche
scientifique.
Hyper scientifique parce que c'est ma manière à moi aussi de fonctionner, je pense. Voilà, il y a ça. Et en même temps, il y a ce côté léger. Parce que personnellement, voilà, c'est aussi le rapport que moi j'ai avec l'intimité, avec l'intime, et c'est aussi, voilà, pour moi quelque chose de très très beau.
C'est beau, mais il y a une résolution. Peut-être que ça sera encore ta vibration pendant longtemps, parce que peut-être que finalement ce côté scientifique, médical, c'était quelque chose que tu voulais depuis longtemps.
Par exemple. clairement, ça vient un peu. Un peu, c'est une boucle qui se ferme de quand j'avais 16 ans et que je voulais faire médecine et que mes parents, voilà, j'ai envie de dire, on va pas entrer dans les détails, mais m'ont détourné de ma vocation qui était d'être médecin.
Les seuls parents qui détournent leurs enfants de médecine.
et effectivement, je pense qu'il y a un truc, une blessure d'enfant qui vient aujourd'hui en fait s'apaiser à travers... cet accès en fait que tout le monde aurait pu faire, mais à la fois à la science et en même temps un public, en tout cas une possibilité de faire l'éducation populaire gratuite, accessible à tout le monde sur la sexualité, mais qui si tu veux a fini par alors je me suis formée, j'ai été certifiée donc en sexothérapie, mais ça a pris aussi un chemin que je n'imaginais pas. Du coup, je suis devenue, cette année, en 2022, enseignante.
Génial.
Ouais.
Et tu vas créer des écoles ensuite. T'imagines, orgasme, mais moi, ça... ça va devenir une clinique dans le monde avec...
Non, mais c'est... Ah, ça, c'est l'itinéraire de Masters & Johnson. Mais en même temps, pour l'instant, écoute, je suis juste enseignante à la Sorbonne.
Ok, tu formes en sexothérapie.
Alors non, là, je suis en... C'est de la santé sexuelle. C'est un diplôme universitaire de santé sexuelle.
Incroyable.
Qui a été... voilà, créé par Jacqueline Isard, Laura Berlingo, que je remercie énormément pour leur confiance. Et donc, l'essentiel des personnes qui sont admises sont des professionnels de santé. Donc des médecins, des sages-femmes, des infirmières scolaires, des personnes qui sont également dans le milieu éducatif. Donc moi, je forme un public de professionnels, en fait.
D'accord.
Notamment professionnels de santé. Je fais la formation professionnelle continue. Voilà, parce que n'empêche qu'aujourd'hui, heureusement, il y a une vraie progression dans les programmes des professionnels de santé, de médecine, de sages-femmes, d'infirmières, etc. Il y a 20 ans, ce n'était pas le cas. On est quand même sur des terrains, on en revient à ce que je te disais, en termes de connaissances qu'on a aujourd'hui.
On est au début.
Un corpus qui s'est tellement étoffé au cours des 20 dernières années qu'il faut vraiment que les médecins et que tous les professionnels de santé se forment pour vraiment se tenir au courant. Tu sais, on parlait de vaccins HPV il y a encore des personnes. Enfin, je rappelle que la Haute Autorité de Santé recommande la vaccination de toutes les personnes à pénis, à vulve. En tout cas, la reco en France, ça s'arrête à 19 ans. Dans tous les autres pays du monde, c'est au moins jusqu'à 27 ans, voire toute la vie. Bref, on n'a pas encore comblé notre retard. N'empêche que, comment ça se fait que les pédiatres et les médecins ne recommandent pas aux parents de vacciner leurs petits garçons?
Bien sûr, c'est fou.
Et en France, si tu veux, c'est pas encore... Il y a encore plein de médecins, pédiatres, qui ne proposent pas aux parents vaccination. Alors que dans des pays où la vaccination a lieu... je suis désolée, il y a sans doute des personnes qui...
Anti-vax.
Je suis désolée. Voilà, je m'excuse, mais voilà.
J'ai pas beaucoup d'anti-vax dans mes auditeurs.
Je vais parler. En tout cas, il faut aussi écouter ces personnes-là. Je pense que c'est aussi intéressant d'écouter, quels sont les freins. Mais il y a des pays, la Suisse, le Canada, le UK. Également Nouvelle-Zélande, Australie, ça se fait en milieu scolaire, en fait la vaccination est systématique, et l'Australie qui fait ça depuis 10 ans a quasi éradiqué le HPV. Si tu veux, les cancers du col de l'utérus et les cancers anorectaux. Donc on est vraiment, en France, on est un peu en retard, et ça concerne toute la santé sexuelle, ça concerne également les dépistages, ça concerne, c'est-à-dire j'aimerais pouvoir te dire que en France, seule la partie plaisir, la partie ludique.
Reste à explorer,
enfin, est encore assez méconnue des professionnels de santé, et que toute la partie qui concerne. Je sais pas comment dire.
Le médical,
fait,
ouais.
Mais en fait, c'est aussi du médical. C'est-à-dire, quand tu regardes la définition de l'OMS de la santé sexuelle, ça prend en compte le bien-être psychique, émotionnel, affectif de la personne. Donc le plaisir fait partie de la santé, santé sexuelle. Mais là, en fait, j'allais dire, parce que j'ai aussi ce débat avec mes parents qui font partie des personnes de la vieille école, évidemment, sinon c'est pas drôle. Et effectivement, il y a un côté, ma mère qui est gynéco-ops, elle sauve des vies, tu vois, c'est la partie noble, entre guillemets, où quelque part, il y a un truc où tu vas sauver, tu vas dépister des cancers, etc., tu vas intervenir. J'ai ressenti en tout cas une espèce d'opposition entre effectivement la partie qui relève en fait de l'épanouissement personnel, intime, bien-être, tout ce que tu veux, sexuel, et la partie un peu où c'est une question de vie ou de mort. Et en fait, j'ai envie de dire, même sur la partie où c'est une question peut-être pas de vie ou de mort, mais en tout cas de santé ou de maladie, même sur cette partie-là, en fait, on a du retard.
Complètement.
On a énormément de retard.
Et puis des pratiques obsolètes, parce qu'il y a aussi beaucoup, il y a eu toute une dénonciation des violences obstétriciennes, en fait, de gynécologues totalement déconnectés du bien-être de leurs patients. Et enfin, je veux dire, il y a aussi un énorme sujet là-dessus, quoi.
Voilà. Non, mais en fait, ouais, c'est ça.
C'est fou, ouais.
Ouais. Y a encore un petit chemin à faire.
Ouais.
On n'est pas. Mais on avance. Et voilà, enfin moi je suis...
C'est marrant parce que tu parles de tes parents, et justement alors tout ce métier sérieux que tu as quitté, ou peut-être dans ce métier, parce que ce que tu fais est tout aussi sérieux aujourd'hui, mais ce que tu pointes du doigt, c'est le bonheur d'être connecté un petit peu aux gens et d'interagir et d'avoir leur récit. Peut-être que tu étais moins en contact avec ça dans ton ancien métier. Est-ce que tes collègues,
comment ils ont vu cette transition? Est-ce qu'ils ont été étonnés? Est-ce qu'ils t'ont soutenu? Est-ce qu'ils s'en sont moqués? Ou au contraire, ils t'ont encouragé?
Je crois que c'est là où tu réalises en fait des choses que je n'avais pas vues avant. La plupart des personnes à qui j'ai envoyé le compte qui me disaient « Mais du coup, tu vas faire quoi ?» Parce que du coup, moi, j'ai révélé ça que le jour du départ. Et du coup, pendant une espèce de... Parce qu'avec ma manager, on a vraiment mis en place un calendrier pour que je sois remplacée parce que j'étais sur un poste assez clé, avec des personnes encadrées, sur un métier très spécifique, un métier d'experte en l'occurrence. Donc ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Elle m'a dit avril, septembre, tu vois.
Ouais. Énorme, ok.
Ouais, donc il a fallu effectivement que... Mais ça s'est passé super, super smooth, c'est vraiment génial. Merci Marianne si tu m'écoutes. Pour la personne que tu es, et merci toute l'équipe aussi, parce que elles ont été super supportives.
Ok.
Et aussi les réactions, c'était ça m'étonne pas de toi. Ah mais qu'est-ce que ça dit de moi? Mais le côté un peu, c'est là où tu te rends compte que, je pense que je suis pas différente du compte sur le compte que j'étais dans la vraie vie. Alors je me dis, mais je devais être un éléphant de porcelaine là où j'étais dans cette boîte du secteur privé, une grande boîte du CAC 40, où très ambiance très feutrée, très guindée, un certain élitisme, tout ce que tu veux, avec toutes les caricatures que vous avez en tête et qui s'appliquent réellement en plus. C'était un monde très différent. Et pour autant, j'évoluais là-dedans, mais je devais être effectivement un animal un peu atypique. Et quand j'ai dit aux gens que je faisais ça, je leur ai dit « c'est normal, ça te va bien ». Manifestement, ça a étonné personne sauf moi, en fait, cette espèce de virage.
Tu disais qu'il y avait une excentricité
Mais je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis pas rendu compte, j'exagère, parce que c'était un métier aussi... c'était un métier technico-commercial, c'était extrêmement technique et en même temps j'étais face à des clients et en même temps je pense que pouvoir dire que mes clients m'adoraient et c'est vrai que je disais ça, c'est horrible ce que je vais dire, mais je connaissais le nom de leurs conjoints, conjointes, de leurs enfants, de leurs relations potentiellement autres, et je retenais et j'adore les voix, c'est drôle là, je suis en train de parler dans ce podcast et j'entends ma voix, je suis amoureuse des voix, c'est extraordinaire, t'as un truc, un son de ouf, mais en fait j'avais quand même beaucoup de clients qui m'appelaient et c'est vrai que je me rends compte en fait que finalement ta personnalité, en tout cas qui tu es, on est heureusement des personnes multiples et tu vois en l'occurrence ça faisait appel à des facettes de moi, donc j'ai aussi une formation de juriste et de statisticienne, d'économiste, donc c'était plutôt très, très quantitatif et technique. Néanmoins, j'avais aussi, ce qui me plaisait effectivement, c'était ce mix et cette relation aussi. J'aime les gens. J'y peux rien, j'aime les gens. Et du coup, passer à une communauté où effectivement, t'as cette relation. Moi, j'ai une relation artisanale aux personnes de ma communauté. Je gère ma communauté de 600 000 personnes, comme quand on était 100. Ouais. C'est-à-dire, je réponds aux personnes, j'essaie de quand je remercie, je mets le prénom. Merci Marion, merci Thomas.
Incroyable, parfois tu dois bloquer aussi.
N'oublie pas, Annelise, que tu es forte et puissante, etc. Et en fait, c'est aussi pour ça que ça me prend un temps fou.
Ouais.
Ensuite, c'est pas forcément, j'ai envie de dire, ne faites pas ça chez vous. si vous avez, moi j'essaie c'est très très dur. Je pense que le plus dur sur mon compte, si aujourd'hui je devais donner ma difficulté, c'est d'arrêter. Il faut que j'arrête parce que ça me prenait quand j'ai décidé que j'essayais de travailler sur moi. C'était 50 heures de connexion par semaine.
Wow.
Mais 50 heures. À ça, il faut évidemment rajouter ma patientèle, propres patients des couples.
En visio beaucoup de couples, plus que des personnes individuelles.
Je prends que des couples.
D'accord.
Ma passion, c'est la thérapie de couple.
Ok.
C'est un truc que je trouve passionnant.
Incroyable.
Je pense aussi de mon...
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found.
LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Expérience personnelle, enfin, c'est un chemin sur lequel je me suis engagée tout de suite. En fait, la thérapie de couple, il y a ce truc extraordinaire. Quand tu as une patiente en face de toi, tu crées une alliance thérapeutique, one-to-one, une espèce de duo, de partenariat. On va cheminer ensemble. Quand tu as un couple, tu as une première alliance thérapeutique. Mm-hmm. Alors, en l'occurrence, j'ai que des couples hétéros. Donc, une avec l'un, avec l'autre. Et une troisième alliance avec l'entité couple. Mmh. Et c'est hyper... Enfin, c'est vraiment ces trois alliances thérapeutiques qu'il faut mener, en tout cas dans les échanges, dans le temps de parole, etc. De manière... Voilà, il faut prendre soin de ces trois choses en même temps. Mmh. Et moi, je trouve ça intellectuellement passionnant de voir les interactions, de leur apprendre aussi parfois à communiquer, etc. Enfin, voilà, je ne m'en laisse pas.
Et donc, tu disais qu'en fait, par rapport aux 50 heures par semaine de connexion par rapport à ton activité, tu avais dû faire un choix.
À l'écriture, à mes interventions en établissement. Et écriture du premier livre, maintenant écriture du deuxième livre. Ouais. Mes interventions en établissement scolaire.
Ton poste de professeur maintenant à la faculté.
Mes enseignements à la Sorbonne.
Ta vie de famille,
mes
tes
enfants. En fait, il y a un moment où moi, je pense que je ne suis pas descendue en dessous de 70 heures de travail entre février 2019 où j'ai créé le compte. Ensuite, c'est monté progressivement, mais quand j'ai arrêté mon travail dans ma grande entreprise, 1er septembre 2019, j'étais quasiment déjà... Enfin voilà, C'est monté,
c'est-à-dire que tu as quitté ton travail dans la grande entreprise où déjà tu devais être au moins 60 heures de travail par semaine.
Non, là-bas j'étais... Je pense que je travaillais 45-50 heures par semaine.
Ah ok.
Mais ensuite, tu rajoutes le compte. Et en tout c'était monstre mes semaines. Mais c'est pas grave, j'étais habituée et j'ai vraiment basculé tout sur le compte. Et la communauté a grandi, le confinement est arrivé et le confinement était un moment effectivement où je passais toute ma vie dessus. Je me réveillais, j'étais sur le compte. Je me couchais, j'étais sur le compte. Mmh. C'est-à-dire que j'y étais.
Oui, donc là c'était 24 heures sur 24. Non,
honnêtement, je pense que je me lève entre 6 et 7. Je me lève à 6-7 heures. J'étais au lit entre minuit et 1 heure. Et toute la journée, c'était créer du contenu, répondre aux messages. En essayant d'intercaler les moments où tu fais les devoirs avec
ton
premier enfant, ton deuxième enfant, des jeux avec le troisième, des sorties pour que. Enfin, des sorties dans le jardin. Hein.
Les effets. Ouais.
C'est ça. Mais vraiment.
Et t'as pas eu de burn-out ?
Et c'est un peu ça. C'est-à-dire, en fait, j'ai pas eu de burn-out. Mais par contre, parce que j'écoute ma fleur vaginale. Rappelle-toi.
Elle t'a prévenu avant.
Meuf, calme-toi.
Doucement.
Ouais, mais franchement, dès que je sens la moindre gêne, je suis en mode faut que je dorme. Mmh. Ok, ce soir, je suis au lit à 20h.
Okay.
C'est incroyable. C'est un super. En fait, moi, j'ai un super pouvoir de ma chatte.
Une connexion.
Ouais, elle me dit Charline. Attention.
Tu sais que moi j'ai un problème à ma chatte quand même depuis mars 2020, c'est que j'ai une pubalgie.
Alors
si, et c'est un enfer. Alors je crois qu'il y a des spécialistes, je crois que le spécialiste, figure-toi, de la pubalgie, il est à Monaco.
Mon Dieu, mais donc là on parle de névralgie plus d'andale. Hein.
C'est ça, c'est une tendinite du pubis.
C'est ça.
Et ça a commencé, premier confinement, parce que je suis pas très sportive et en fait j'étais tellement angoissée à l'idée de rester enfermée chez moi, je marche beaucoup. Que j'ai commencé à marcher dans mon quartier à Bagnolet, mais c'est un petit quartier aux fleurs et en fait d'un coup ça me paraissait pas assez et moi qui suis pas sportive et qui me fait en général mal quand je fais du sport, je me suis mise à regarder des trucs sur Insta, des lives et à faire des abdos, des squats, ce genre de choses et en fait c'est en faisant des abdos que ça s'est déclaré et apparemment c'est assez classique et je crois que c'est la blessure du footballeur où en fait t'as beaucoup de footballeurs qui en faisant des entraînements sportifs avant les matchs se font des pubalgies et le problème, c'est que je me suis dit, ça va partir quand même. Et c'est toujours pas parti.
Ostéopathe, t'as fait évidemment.
Alors, j'ai commencé par des ostéopathes, un premier, parce que moi, j'avais aussi j'avais un petit souci au coccyx, parce que quand j'avais 18 ans...
Tu t'es déplacé le coccyx ?
Ouais.
Ah ok. Mmh. Non, mais clairement, oui, non, c'est lié.
Ouais, ça a commencé par le coccyx quand j'avais 17, j'étais en terminale, j'étais dans un cours de théâtre et lors d'une impro, ce qui clairement en fait est un truc, un acte de violence, mais sur le moment je l'ai pas, c'était avant MeToo, un partenaire qui dans une impro m'a jeté par terre, m'a soulevé et m'a jeté au sol.
Pardon ?
Non, je te jure.
Sans que ce soit consenti.
Sans que ce soit sans que c'était une impro. Donc je n'étais pas au courant qu'il allait faire ça.
Ça va pas la tête.
Et en fait, les profs n'ont rien dit. Enfin, ils ont commenté la scène comme si c'était une scène de théâtre, de machin. Et moi, j'ai eu une souffrance énorme sur le moment. Mais c'était dans un cours de théâtre très spécial. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur les cours de théâtre. Mmh. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'ai eu mal. Mais en fait, je me suis dit, c'est vraiment parce que c'était avant MeToo. Parce que sinon, aujourd'hui, le gars, j'aurais foutu un procès au cul. Parce qu'en fait, ce que ça m'a coûté en ostéopathie derrière, déjà de comprendre en fait, la douleur que j'ai vécue. Et en fait, à partir de ce moment-là, donc, ça m'a légèrement fissuré le coccyx. Et donc, j'ai un ostéopathe que j'ai vu régulièrement. Parce qu'après, le coccyx, ça te décale tout, quoi. Les hanches, je veux dire, c'est une douleur. Mais donc, j'ai revu cet ostéo. Ensuite, on m'a conseillé un autre. J'ai fait un peu d'acupuncture, mais ça n'a pas fonctionné. J'ai changé de truc pour les chaussures, là, rien semelle. À voir, de semelle, aucun rapport. Et finalement, ma gynéco m'a conseillé le contact d'une sage-femme qui, elle, m'a fait une stimulation interne. Donc la première fois, ça a évidemment énormément apaisé. Après, elle m'a dit, essayez de réfléchir à un sens plus profond. C'est là où sont toutes les informations. C'était le moment en effet, mais je ne savais pas après il a su que j'allais écrire mon livre, que j'allais accoucher d'autant d'informations. Mais hélas, ça n'a pas résolu ma pubalgie. Mais il y avait en effet peut-être des informations qui étaient stockées, mais j'essaye au fur et à mesure de les déstocker. Mais j'ai beau faire le travail psychologique, la douleur physique, elle est là. Et après, donc une stimulation à l'intérieur du vagin, une stimulation dans l'anus. La première fois, ça m'a vraiment en effet détendue, mais c'est revenu. Je l'ai revu une deuxième fois et hélas, la période où ça allait mieux était vachement... C'était la première fois, j'allais mieux pendant 2 semaines et après, j'allais mieux juste 2 jours. Et ensuite, la pubalgie est revenue. Et la douleur, elle est là tous les jours.
Là encore, là.
Là encore, ouais. Tous les jours, j'ai mal et j'essaye de me masser. Et alors, le truc que... Et tu sais quoi ? C'est que notre rencontre n'arrive pas par hasard. Parce que on en discutait récemment et je ne sais plus, tu parlais du fait qu'il fallait vraiment s'autoriser le plaisir anal.
Et moi, j'aurais parlé comme ça. Oh, dis donc, hein, ça ne me ressemble pas.
Et en fait, c'est vrai qu'elle a raison, Charline. Et je ne sais plus, c'est vrai que récemment, j'aimais bien... me masturber en stimulant le clitoris et un peu l'entrée de l'anus, alors qu'en fait ça me fait pas grand chose de me stimuler. Je me suis rendu compte, je me suis autorisée à moi-même le fait d'admettre que toute seule j'arrivais pas à me stimuler vraiment le vagin, que je ressentais rien.
Okay.
Par contre, ça me fait quelque chose quand je me stimule l'anus.
Ouais.
Et en fait, récemment, de plus en plus, je me suis vraiment lubrifiée et tout d'un coup, je me suis mis un sextoy dans l'anus. Et alors, en fait, je me suis rendu compte que là, pour le coup, en fait, ça me déconcentrait du plaisir qui allait me mener à l'orgasme, mais que ça me faisait comme un massage plus profond et que ça faisait du bien à ma pubalgie.
Ok.
Voilà.
C'est trop cool. Mais donc, tu sais que tu viens chercher le nerf pudendal hein, quand tu te pénètres l'anus. Et du coup, oui, tu viens masser le nerf, clairement.
C'est ça.
Ensuite, mais c'est trop... Écoute,
c'est grâce à toi. parce que tu m'avais dit dans cette conversation qu'en fait, on peut découvrir le plaisir anal aussi par soi-même et en se masturbant avant de... Je t'as dit quelque chose comme ça et je me le suis vraiment autorisée grâce à... C'est fou comme les rencontres. Je me sentais plus que c'était parce que je pense qu'il y avait au fond de l'interdit, hein, clairement, autour de tout ça. Et c'est grâce vraiment à des personnes comme toi qui décomplexifient. Et donc, tu viens un petit peu apaiser, mais tu vois, c'est des vrais. Et après, je me dis, bon, mais j'ai encore du chemin à faire. Le jour où la pubalgie disparaît, je te tiendrai au courant, je sais pas. Je crois qu'on m'a dit qu'il y avait un expert qu'il faut que j'aille voir.
Monaco, du coup.
Ouais, c'est ça.
En tout cas, mais ce qui est intéressant, c'est en fait s'autoriser à. Tu sais, en fait, moi j'en parle avec avec ma petite team, qui m'aide, et puis au quotidien. Et je leur disais, il y a deux choses quand même. Il y a la première chose, c'est effectivement. Les témoignages sont partagés par dizaines, centaines, milliers. Et d'une manière ou d'une autre, il y a des témoignages qui ne touchent pas du tout, c'est clair. Mmh. D'autres qui touchent profondément. Mais c'est surtout tout cet ensemble de textes partagés. D'abord, ça te donne des idées. En fait, moi, ça, c'est mon postulat. L'imaginaire érotique, créatif des gens est assez faible, finalement. Enfin, je trouve que par rapport...
Oui, ça c'est très vite missionnaire, pénétration dans le... Enfin, oui, c'est vrai que...
Ouais, je trouve que les manières avec, que les gens ont... que ce soit des scénarios, que ce soit des différents types de stimulation, l'ordre dans lequel on va stimuler, les accessoires qu'on peut utiliser, les paroles qu'on va dire, les sons qu'on va entendre, enfin, quelque part, les cinq sens peuvent être stimulés. En fait, réellement, c'est un endroit... c'est comme la musique, réellement c'est infini en fait, la sexualité, tu peux le comparer à la bouffe, effectivement c'est comme si tu avais 1000 possibilités en termes d'ingrédients, d'épices, etc. En fait le steak frites c'est bon quoi, ça va, mais franchement voilà.
Ça c'est avec tes patients, c'est ce que tu les incites à explorer, donc beaucoup
ensuite c'est pas forcément, je vais revenir sur ce sujet là, mais en fait les gens surtout s'autorisent à vivre des choses, et deux, viennent chercher également des idées, viennent enrichir leur imaginaire érotique. Et je pense que, tu vois, ce que des fois me disent, mais pourquoi toi tu racontes rien? Alors moi, c'est vrai que ma propre vie sentimentale, amoureuse, affective, sexuelle, elle a globalement presque aucune place sur mon compte. D'abord parce que j'essaie de préserver ça. Enfin, tu vois, il y a aussi des choses qui relèvent de l'intime, pour le coup.
Bien sûr.
Et je raconte globalement peu de choses. Mais c'est surtout, je leur ai dit, mais si moi, j'avais créé un compte en racontant un peu mes témoignages, mes expériences, etc., je pense que les gens se seraient dit, mais tant mieux pour elle, en fait. Elle a une vie cool, elle a une vie sexuelle chouette.
T'avais peur que ça rende jaloux.
Non, mais même pas. C'est en fait aucun... Enfin, j'en veux dire aucun intérêt. La réalité, c'est que ce qui est beau, c'est que la vie, c'est la vie de tout un chacun, chacune, en fait, qui arrive, en tout cas qui émerge des témoignages. Et que, à force de lire toutes ces personnes qui ne sont pas, qui sont monsieur, madame, personne, tout le monde, elle s'autorise à vivre des trucs fous, et à se stimuler comme ça, et à se branler comme ça, et à aller chercher tel type de plaisir, et tel type de scénario, et tel type de mots pour se parler, de dirty talk, de sweet talk, de ce que tu veux, de le faire dans des lieux incroyables, de prendre parfois, je sais pas si c'est des risques, mais en tout cas, de faire des trucs un peu insolites, parce que il y a des moments où t'as envie de faire des choses incroyables pour être en connexion. Et là, ça libère. D'ailleurs, en fait, les gens se disent, puis si toutes ces personnes s'autorisent, mais pourquoi est-ce que moi, je m'autoriserais pas à le faire? Et c'est cette accumulation de liberté, je ne sais pas comment dire ça, en tout cas de liberté qu'on prend, qui permet aux personnes, je pense, de prendre leur propre liberté, de s'autoriser à vivre les choses. Et ensuite, y a également tellement d'idées qui émergent, tellement de créativité, et à travers tous ces témoignages, que tu viens également faire ton petit marché. Il y a des gens qui me disent, mais je lisais ça, ça ne me parlait pas du tout. Et c'est très incroyable, j'ai rencontré une personne, un partenaire, une partenaire, avec qui
ça a pris sens.
Tout d'un coup, je l'ai vu, j'ai eu envie de faire comme le témoignage que tu avais publié sur tel sujet. Et là, tout d'un coup, c'était clair.
C'est des milliers de connexions.
À ce moment-là, j'étais prête à vivre ça, j'avais envie de vivre ça, je l'ai proposé. Cette personne a dit, ok, on y allait, ça a été magique, merveilleux. Alors, je pensais que que jamais de ma vie, en lisant le truc, je me suis dit, alors ça, jamais. Boum. Et voilà. Et c'est quand même quelque chose. Je pense que le mot liberté, c'est un mot qui est très cher, qui m'est très cher et qui est très cher au compte. Je pense que c'est une grande histoire d'amour. Des 70 heures par semaine, mais même plus. Je pense que honnêtement, pendant le confinement, il y a clairement des semaines où j'ai frôlé les 100 heures. Et les gens qui, du coup, j'émergeais pas. Enfin, de toute façon, en même temps, il y avait rien d'autre à faire. Parfois, je me dis, sans ce confinement, est-ce que mon compte aurait été la même chose? Je ne pense pas. Moi, je l'ai bien constaté au déconfinement. Tu vois bien que les gens recommencent à vivre leur vie. Et toi, tu es quand même encore enfermé chez toi toute la journée, à répondre de manière artisanale à des centaines de messages chaque jour. Là, le fait que tout le monde soit enfermé et soit, j'allais entre guillemets, no life, j'avais pas l'impression de... C'est le fear of missing out. Il n'y avait pas de FOMO, puisque de toute façon, tout le monde était dans le même bateau. Donc moi, comme tout le monde, j'étais sur mon téléphone. Et ça, moi, c'était mon travail. Et donc, je travaillais... Mais c'est surtout une histoire d'amour. En fait, le seul autre lieu où tu peux donner de ta personne, comme si tu avais des papillons dans le ventre en permanence, cette envie une forme de fièvre, en fait. Je me sentais un peu en transe, enfiévrée. Et c'est quelque chose que je vis encore aujourd'hui. Je veux dire, la passion, pour moi, elle dure depuis plus de 3 ans, pour le coup.
Wow.
Et je suis encore... je sais pas si c'est le mot, mais... Ouais, enfin, je suis amoureuse de ma commu, j'aime ces personnes, j'aime les gens, et c'est vrai que toutes ces interactions, certaines peuvent le vivre comme une forme de violence, de « ah, il faut répondre », des fois tu sais pas sur quel message tu vas tomber, il y a de l'anxiété, et tout ça c'est vrai.
Ouais.
Néanmoins, en fait...
C'est rien par rapport à la
joie. Moi j'ai un plaisir fou, en fait. Ouais. J'ai un vrai plaisir à gérer ce compte, comme quand il y avait 100 abonnés. Et ensuite, tu vois les mêmes noms, puis un jour, tu vas en meet-up, et tu vois les vraies personnes,
incroyable.
Tu vas en dédicace.
Ouais.
Il y a une espèce de prolongement qui s'est fait après les déconfinements.
De la relation parasociale à la relation vécue, quoi, à la rencontre. Ouais.
Et franchement, c'est une commu en or. Et donc je sais pas.
C'est génial.
Je sais pas où ça va me mener, mais en tout
loin,
cas.
Loin, très loin, bientôt le million. YouTube, t'as jamais voulu explorer?
Je connais. En fait, alors là, pour le coup, ce serait plutôt TikTok, vu ce que les gens me mettent avec mes réels.
Ouais.
Je suis désolée, j'ai essayé. C'est mes débuts d'acting.
Non, c'est bien, c'est drôle. Ouais, c'est vrai, sur TikTok. Oui, tu devrais complètement y aller.
Non,
ouais.
En fait, parce que.
Non.
Non, parce que là, Instagram, tu vois, je me dis, je passe déjà tellement de temps sur la plateforme.
Oui.
Mais si je me mets sur...
ça sera trop.
Enfin, je peux pas, en fait.
Ouais, ouais. Et quelqu'un peut pas le faire pour toi? Quelqu'un qui gère tes réseaux sociaux et qui ensuite s'occupe de mettre la vidéo sur TikTok?
Non, en fait, moi, il y a un truc en moi qui est... J'aime, en fait, lire les messages. Il y a une espèce d'intimité. C'est comme tu vibres. Enfin, on reste sur l'entrée en résonance. C'est-à-dire, il y a une entrée en résonance, clairement. Et quelque part, j'ai besoin de sentir ma communauté. Tout comme tu vas sentir... Tu décroches ton téléphone, t'appelles une pote, et en fonction du ton de la voix,
Tu sais dans quel
état. Tu sais en fait dans quel état est cette personne, et tu parles à plusieurs autres personnes, et ça te donne un peu une idée. Est-ce que il y a plutôt une espèce de légèreté ambiante, une morosité ambiante, etc. Ou alors quels sont les sujets en fait du moment. C'est exactement pareil avec ma communauté. En fait, je suis à l'écoute. Il y a une espèce d'intimité forte, et j'ai ça. Donc j'ai pas envie de déléguer parce que j'aurais l'impression, en fait...
De perdre ce lien.
Ouais, c'est comme si tout le disant, tu attends, c'est au stock-up et on te le coupe, on fait « Allez, vas-y, continue à bosser. » Non, en fait, j'ai besoin d'écouter le cœur de ma commune, en fait. Et sans ça, ça n'a pas d'intérêt pour moi.
Je comprends. Et quand tu as des couples en thérapie, est-ce que c'est difficile de faire le distinguo entre le médical et le psycho-bullshit, c'est-à-dire que tu vois...
je m'attendais pas.
Non mais parce que je réfléchissais à ce que m'avait dit cette sage-femme, tu vois, l'intérieur des informations et tout ça, c'est qu'en fait, parfois tu reçois ça, et justement cette information, qu'est-ce que j'en fais? Tu vois, c'est-à-dire que moi...
c'est pas du tout du bullshit.
Non, c'est-à-dire que parfois c'est rapide. Je me dis, par exemple, que tu vois,
J'ai envie de dire, je vais t'envoyer le lien d'un film qui a été fait, tu m'autorises, je t'interromps,
mais je t'en prie.
Sur les hôpitaux de Strasbourg qui ont fait un film sur des personnes atteintes d'endométriose, en particulier d'endométriose et de dyspareunie, faire un travail en fait, faire le lien clairement entre des violences vécues, et notamment incestuelles, et puis des violences médicales et autres. Avec ce que le corps exprime. Et effectivement, on n'est pas dans du médical. Tu vois, la réalité, c'est que, j'ai envie de dire, même dans des hôpitaux universitaires, parce que l'hôpital, en l'occurrence, c'est les hôpitaux de Strasbourg et c'est un centre universitaire, en fait, c'est pris très au sérieux. C'est-à-dire, en fait, ce que le corps exprime, et d'ailleurs, on le voit, c'est-à-dire, les statistiques sont là, c'est-à-dire, des enfants victimes d'inceste ont beaucoup plus de risque de développer de l'endométriose. Donc quelque part, ce dont on a l'impression de dire, ce sont que des cellules de l'endomètre qui migrent dans le myomètre ou dans le reste du corps, la zone pelvienne, en réalité, qu'est-ce que ça dit de ton vécu aussi. Donc c'est pas du psycho.
Non,
bullshit,
bien sûr. Non, mais ça, c'est évidemment que moi j'ai un psy depuis depuis toujours. Je suis une fervente croyante dans la psychanalyse et je pense bien sûr qu'il y a plein de on somatise énormément. Donc c'est pas même une croyance. C'est à partir du moment où je crois en la science, le somatiser, ça fait partie de la science. C'est pas bien, évidemment. Ouais.
Pour répondre à ta question, en fait, en thérapie, non, c'est pas le plus dur, c'est pas ça.
Okay.
Le plus dur, en l'occurrence, moi, je le vis pas, mais j'ai une pensée pour tous mes collègues, confrères, consoeurs qui le vivent. Aujourd'hui, moi, j'ai l'immense luxe de choisir les patients, patientes avec qui je travaille, parce que j'ai beaucoup de demandes et j'ai malheureusement peu de créneaux. Pour moi, c'est un grand luxe parce qu'il y a des personnes avec qui j'aurais du mal à travailler. Je les réoriente et ils ont besoin d'aide, ils sont en détresse, et elles sont en détresse. Et je vais te donner un exemple tout bête, c'est des personnes où en fait tu les écoutes, t'entends le début du truc, tu vois là, par exemple, le conjoint, le mari, parler extrêmement mal à sa femme, la dénigrer, tu vois de la violence verbale, sans banaliser, sans même qu'elle la relève ou même qu'elle fasse attention. Tu sens que la violence est devenue complètement banale, et ça, c'est encore que ce que tu vois. Et en fait, moi, je me sens... Et en l'occurrence, je les réoriente. Hein. Il n'est pas question, en fait, de laisser ces personnes... Mais moi, très, très sincèrement, moi, je sais, à ce moment-là, et c'est une question de déontologie, que je ne vais pas être capable de créer d'alliance thérapeutique.
Ok.
Parce que
tu sens une situation d'abus.
Moi je lutte contre le mot abus.
C'est
une situation de violence.
Ok.
En fait, quelque part, à partir du moment où il y a la violence, la convention d'Istanbul. En fait, là, on est sur un terrain où on n'est pas, conflit, violence sont deux choses différentes. Il peut y avoir des situations conflictuelles dans un couple, des situations, des tensions. Ça, c'est une chose. À partir du moment où il y a violence, en fait, là. C'est très compliqué. Et c'est des situations pour lesquelles, moi, je ne me sens pas aujourd'hui. Je pense que on se forme tout au long de notre expérience professionnelle de sexothérapeute. En tout cas, aujourd'hui, je ne gère pas ça. Ça, c'est des situations dans lesquelles je me sens pas de créer d'alliance thérapeutique, en fait. J'ai réellement juste envie de prendre la femme, en tout cas, et de dire, écoute, casse-toi, en fait. Fais-toi aider. Appelle au 3919. Fais-toi aider, c'est pas possible. Ce que j'ai vu, c'est pas acceptable, c'est pas respectueux. En général, il y a des enfants derrière. C'est des situations éminemment compliquées. Ouais. Mais la réalité, c'est que moi, en tout cas, dès que je décèle de la violence... Personnellement, je réoriente vers un confrère, une consoeur. Mais moi, c'est des situations. Ça, c'est le compliqué. Ça, c'est les vraies situations compliquées. J'ai envie de dire, le reste, c'est des choses sur lesquelles on peut parler. Il y a un échange qui est possible. Ouais. Quand il y a la violence, en fait, on entre dans un univers qui est très spécifique.
Ouais. Et j'ai une autre question. Attends, sur les couples, est-ce que, si, par exemple, on imagine que des couples peuvent vivre une lassitude sexuelle et qu'à un moment, il faut réinventer du jeu, de la découverte, peut-être sortir de schéma, je sais rien, que la femme, c'est pas la maman ou la putain, et s'amuser. Mais aussi, est-ce que parfois, tu peux conseiller à des couples d'ouvrir ?
En fait, les couples viennent me consulter parce qu'elles ont envie d'ouvrir.
Ok.
Pour moi, c'est vraiment...
C'est ta spécialité.
C'est ma spécialité. C'est accompagner des personnes qui, de manière consentie et volontaire, donc en plus, je demande une vraie implication, et tu décèles très rapidement.
S'il y en a un des deux qui ne veut pas.
Oui, c'est ça. Ouais. S'il y a une personne qui a été traînée par l'autre, ça ne résiste pas au premier rendez-vous exploratoire qu'on a sur le couple. Donc voilà, non, clairement, dans des situations où...
les deux sont partants.
Exactement. Les deux personnes ont commencé un travail, etc. Ensuite, Moi, je ne fais pas de thérapie individuelle, je ne prends que mes couples en tant que couple.
Okay.
Je ne suis pas la personne, les personnes à part. Voilà, mm-hmm. Moi, je veux que tout le temps que ces personnes passent avec moi, y elles soient ensemble.
Ouais.
Il ne se passe rien derrière leur dos avec moi, c'est mm-hmm. très clair. Et là, effectivement, c'est là que mon travail commence pour les accompagner. Et ça, c'est passionnant.
C'est passionnant. Waouh, j'imagine.
J'ai envie de dire, c'est intéressant parce que, voilà, parce que nous-mêmes, on a été accompagnés avec mon mari sur ce terrain-là.
Ok.
Ouais,
ça, par une professionnelle ?
Par une professionnelle, c'était il y a 7 ans, tu vois.
Mm.
Donc voilà, c'est quelque chose qui, je pense, nous a tellement transformés. Enfin, comme le disent pas mal de mes couples, en fait, on a l'impression au début, on s'y engage en pensant juste changer une espèce de composante de notre couple, genre en mode, tu vois, on-off, genre on est exclusif, on est non-exclusif. Et en fait, la réalité qui est remontée par, clairement par la majorité des couples qui commencent à faire ce travail, c'est, en fait, ça change vraiment...
C'est ton rapport à la vie.
Ouais, c'est un paradigme, c'est vraiment un changement de paradigme. Ça change ton rapport à l'autre, à toi-même.
À la confiance en soi.
Exactement.
Ouais.
C'est finalement un terrain. Ensuite, moi, je fais pas de prosélytisme. Hein. Enfin, clairement, j'ai envie de dire, soyons clairs. La non-exclusivité, enfin les relations non-exclusives ou la non-monogamie éthique, c'est un sujet. Voilà, je ne ferai jamais de prosélytisme parce que je pense que voilà. Et par contre, si ça vous intéresse, faites-vous accompagner.
Ouais.
Clairement. Voilà. Je pense que...
Oui, pour pas le faire... Oui, bien sûr. Bah oui, parce que c'est délicat, en fait. C'est marrant parce que j'ai eu des invités dans le podcast qui ont témoigné du fait que... Enfin, une invitée polyamoureuse qui me disait « Ah, bah, je m'y perds, j'y arrive pas, parce qu'au départ, je tombe sur des personnes monogames, et je leur dis « Ah, tu veux pas ?» Mais elles veulent pas, et donc le contrat, je dis « Bon, bah, tant pis. » Et puis finalement, ça marche pas, parce qu'en fait, à un moment... Donc ouais, c'est vrai qu'en fait, tu dis, c'est un truc qui est tellement complexe que ça fait sens, en fait, de devoir avoir une personne, une tierce, quoi,
ouais.
Pour désamorcer, poser les questions, être sûr que les deux sont à égalité aussi, au même endroit de leur volonté. Est-ce que ça arrive qu'il y ait l'un des deux qui en profite et l'autre pas?
Ah mais ouais, mais ouais. Complètement.
Et si l'autre est ok, ouais, ok.
Ça, c'est quelque chose sur lequel on fait un travail, effectivement. Moi, j'ai une question.
Ouais.
Parce que je me suis dit, du coup, je vais faire le podcast Les Mecs que je vois, j'étais en train de parler à Julie, à mon agente chérie adorée, et je disais, Les Mecs que je vois, faudrait peut-être que je lui propose de rebaptiser son podcast Les Meufs que je veux canne. Et puis là, j'étais en mode... Les personnes que je veux ken.
Ben oui. En fait, le podcast s'appelle Les Mecs que je veux ken. Bah, parce que moi, je suis hétéro. Donc, la plupart du temps, je baise des mecs. Et que l'idée de. Le point de départ, c'était vraiment d'interroger mon rapport à l'amour et à la sexualité. Après, je me suis dit, ah non, mais c'est trop intéressant de recevoir des meufs. Donc, il y a les éditions d'hiver et d'été, ça s'appelle Les Meufs que je veux ken.
Ah, c'est vrai ?
Ouais.
Non.
Tu seras dans l'édition des Meufs que je veux ken.
C'est vrai.
Et après. Bien sûr, j'ai déjà reçu des personnes non-binaires. Et après, comme justement, parmi les personnes non-binaires, en général, ça fluctue. En fait, elles peuvent se sentir hommes ou femmes par période. C'est pas, elles se sentent pas toujours, ces personnes.
Là, ce sont des personnes gender fluides dont tu parles.
Ouais.
Ok.
Mais donc, j'en ai reçu deux. La deuxième, j'ai même mis une couleur précise pour elles. Parce qu'en fait, c'est vrai que, tu sais, il y a des couleurs, il y a un code couleur. Les mecs, c'est vert. Et les meufs, c'est un peu orange, tu vois, ce qui
t'as
est très...
T'as fait la non-binarité, t'as fait le drapeau non-binaire.
Oui, pour Yel, j'ai fait une couleur bleue, ouais. Et donc, c'est pour qu'il y ait une troisième possibilité. Et puis pour moi, quand c'est des monologues, c'est une couleur violette.
D'accord.
Mais donc, en effet, oui, j'essaye de pas... Alors, c'est vrai, ça paraît, en effet, hyper, hyper genré, et c'est un reproche qu'on m'a fait. Mais j'essaye de l'aménager et d'en discuter avec les personnes non-binaires qui viennent. Et moi, elles me permettent vraiment d'avancer, d'explorer. Mais c'est vrai que les gens que je veux ken, ça aurait été m'approprier la gender fluidité, tu vois, qui n'est pas encore mon expérience de vie. Je ne suis pas gender fluide moi-même. Tu vois, donc c'est pour ça que le podcast porte ce nom. Charline, est-ce que je peux passer au questionnaire de Proust avec mes questions de fin?
Oh, tu sais que j'ai pas du tout bossé, je sais pas, il fallait bosser un truc.
Pas du tout.
Mon dieu, j'ai peur, vas-y.
Est-ce que t'as une musique préférée, une chanson que t'aimes?
Oh, Ouais, tellement. Non, mais c'est une seule.
Ouais,
écoute,
ouais,
je vais citer la dernière qui m'est venue, que j'ai réécoutée, c'est Miley Cyrus.
Ah, ok, ouais.
Wrecking Ball.
Ouais.
Ouais, merci les Bridgerton de me l'avoir refoutu dans la tête. Non, mais franchement, j'assume, j'ai bingé la saison 2.
Les et chroniques.
Franchement, ouais, les chroniques. Et il y a cette reprise. Voilà, qui a lieu dans un plot twist magnifique que je ne dévoilerai donc pas. Et voilà, et du coup, je la réécoute. Et puis mes enfants, qui. Enfin, j'adore, tu sais, mes enfants,
yeah.
Ouais, qui sont en mode. Ah, maman, elle est trop cool cette chanson. Et je fais Wrecking Ball, Miley Cyrus. Et du coup, bon voilà, quand t'as des enfants, l'avantage c'est que du coup, on l'a en boucle à la maison depuis trois jours.
Génial.
Bon voilà. Mais c'est...
La qualité que tu préfères chez un homme ?
Chez une personne ?
Absolument.
D'accord, on est là.
C'est Proust qui l'a écrit, ce questionnaire. Donc à l'époque, il y avait la réflexion sur le genre n'était pas aussi...
J'adore la générosité.
Et c'est chez toutes les personnes ?
Ah bah ça, j'ai...
C'est la qualité.
Bah sans ça, il n'y a pas. Je peux pas.
Non, bien sûr. Le principal trait de ton caractère ?
Oh... Je sais pas, passionnée.
Ce que tu apprécies le plus chez tes amis ?
Oh, l'intelligence émotionnelle.
Ton principal défaut ?
Beaucoup trop exigeante.
Ce que tu détestes par-dessus tout ?
Oh là là. La mauvaise foi ? La malveillance. Non mais c'est, j'ai un peu l'impression de dire oh, alors moi j'aime pas la guerre de la famille. Mais non, il y a un truc qui est compliqué, la médisance. Je pense que ouais, il y a un truc foncièrement, puis là enfin voilà, en tant que créatrice de contenu sur les réseaux sociaux, en fait ouais, je crois que la médisance, je vois pas l'intérêt et ah voilà. C'est tout.
Comment aimerais-tu mourir?
En fait, là, je suis prête. C'est horrible ce que je dis. En fait, mais vraiment, en fait, ouais, j'en ai parlé à mes enfants cet été. Non, mais il ne faut pas. Vous ne le faites pas. Ne le faites pas chez vous. En fait, moi, j'étais persuadée que j'allais mourir jeune. Ouais, en fait, je ne sais pas comment décrire ça, mais j'étais la gosse. Tu me demandais les facettes de ma personnalité. J'avais une facette d'enfant très sage où. J'étais un vrai rat de bibliothèque, donc en fait, où que je sois, de toute manière, tu me voyais poser avec mon livre. Ambiance très studieuse, enfin voilà, juste je dévorais mes livres avec passion. Et en même temps, j'avais un côté où, eh ben, complètement bonsaï. Donc, que ce soit à roller, que ce soit à vélo, que ce soit en escalade, à ski, j'ai tellement fait n'importe quoi. Je me suis quand même cassé 6 fois le bras. Avant mon accident, mon gros accident que j'ai eu à 20 ans. C'est-à-dire, ma mère, littéralement, enfin le bras, les épaules, le poignet, tout y est passé, littéralement, en fait, me récupérait aux urgences. Voilà, tous les 2 ans, je finissais aux urgences quelque part. Et c'est vrai que, avant d'avoir mon énorme accident à 20 ans, les gens avec qui je pratiquais de la montagne, enfin, des sports de montagne, je les ai entendus dire mais en fait. Enfin, calme-toi, en fait, parce qu'on a peur. On a peur pour toi, en fait. Enfin, tu vas tout en l'air.
Tu poussais tes limites ?
Mais en fait, c'est pire que ça. C'est-à-dire, je n'avais pas...
De limites ?
Je n'avais pas la sensation. Je ne ressentais pas le danger. Les autres ressentaient le danger, là où moi, en fait, j'avais une espèce de... J'avais pas d'aversion au risque. Et du coup, je faisais des choses sans me rendre compte. Enfin, en me rendant compte un peu, mais sans prendre conscience, en fait, des risques que je prenais. Et c'était en permanence. Et je poussais. Ouais, enfin, complètement bonsaï. J'ai fait des chutes, j'ai sauté des barres de rochers hallucinantes. Je me suis pris des gamelles, dont certaines ont été filmées par mes parents. Wow. Ouais. Enfin, assez monumentales. Où, en fait, quand tu vois la vidéo, tu te dis, mais en fait, elle est... Ah ben non. Et moi, j'étais... Enfin, du coup, j'ai un peu grandi avec cette espèce de sentiment...
D'invincibilité.
Que les gens me renvoyaient au contraire de. Enfin, il y a un jour. Enfin. Ouais, ensuite, c'est mon côté où je vivais à fond. Où je, de toute manière, il y a un moment où ça va mal finir, mais c'est comme ça. Enfin. Et voilà. Donc, et en fait, bah, du coup, là, j'ai 39 ans. J'ai survécu à ce très grave accident quand j'avais 20 ans. Je me suis ensuite, c'est incompréhensible aussi, hein, cet accident que j'ai survécu. Je me suis quand même pris un vol de 80 mètres.
Et tu penses, est-ce que t'as survécu ou tu sais, comme dans le documentaire Netflix, tu penses qu'à un moment t'as été morte et que tu t'es réveillée?
Ah, j'ai pas vu ce documentaire.
Il y a un documentaire sur des gens qui ont frôlé la mort et qui en fait, qui ont, ou des gens qui ont, tu sais, la mort clinique et en fait ils en reviennent.
De mort imminente, ouais. Je ne sais pas. En fait, mais je sais qu'il y a des moments où j'ai repris conscience. En fait, du coup, moi j'étais sur une paroi qui fait peut-être 700 mètres de dénivelé, donc c'est une énorme paroi. Mmh. Et seuls les 300 derniers mètres sont grimpables. Donc en fait, t'arrives par le haut, tu poses des rappels sur 300 mètres, tu longes la paroi, il y a une espèce de sentier qui sépare la partie donc grimpable, les 300 derniers mètres, de la partie pourrie, les 400 mètres en dessous. Et en fait, c'était l'été 2003, canicule, et le sentier disparaît. C'est-à-dire, on marche sur ce sentier, qui est réellement à flanc, enfin, c'est un petit truc de rien du tout, expo. Et là, il n'y a plus de sentier. En fait, il manquait littéralement, 5 à 8 mètres de paroi. Il y avait un éboulis. C'était l'été 2003, tout partait, y compris les zones, enfin voilà, les moins, enfin en tout cas, c'était en théorie, voilà, un terrain que c'était pas du terrain d'aventure. Et là, on se regarde avec ma compagne de cordée, on se dit on a dû se tromper. On revient sur le truc de rappel, on voit pas, on revient, on se dit non, en fait, on s'est pas trompé, c'est ça. Et là, au lieu d'appeler directement le peloton de gendarmerie de Haute-Montagne, il faut appeler le PGHM pour qu'il vienne nous chercher là où on était. Moi, je lui fais « Ah non, mais des traversées comme ça, on en fait tous les week-ends à Fontainebleau, c'est bon, vas-y meuf, on y va. » J'y vais en première, c'est elle qui porte la corde, donc c'est moi la plus légère. J'y vais en première, le terrain est vraiment... c'est un dévers, donc c'est quasiment tout sur les bras, donc si tu veux, j'étais uniquement quasiment sur des prises des bras, et j'avance, mètre après mètre, et là... alors qu'il me reste vraiment 2 mètres à faire. Je franchis 4-5 mètres nickel. Et là, je tiens une espèce de gros bloc. Et tout d'un coup, en fait, il se produit l'impensable, en fait. Le bloc, en fait, se décroche. Il y a tout un pan de paroi, en fait. Bah, tout ce qui n'est pas parti continue à partir, en fait. Et là, en fait, donc ma pote, elle m'a vu. Elle a vu, en fait, le truc est fait... T'imagines le pan de paroi qui se décroche.
Horrible.
Et moi, en fait, du coup, j'ai les pieds
en arrière.
J'ai les pieds presque, voilà, qui tiennent sur rien. Et du coup, elle voit ma tête basculer en arrière, donc tête la première dans le vide. Elle dit, j'ai entendu. Alors, du coup, je disparais. C'était un dévers, donc 20 mètres plus bas. Elle a dit, du coup, j'ai vu les rochers, en fait, qui ricochaient. Et j'ai entendu les rochers qui ricochaient. Et après, j'ai entendu un bruit sourd. C'était ton casque. Ton casque qui ricochait 20 mètres en dessous. Elle m'avait déjà perdu de vue. Et là, elle entendait
le dévalement des pierres qui sont venues heurter ton corps.
Et là, silence total.
Et voilà. T'es pas tombé sur les 700 mètres?
Ah, moi, j'ai fait que 80.
T'es tombé sur 80 mètres?
Mais ouais, et sachant que le premier choc, c'était 20 mètres, direct sur le casque. En fait, voilà, je répondais plus. Le peloton de gendarmerie appelé, hélico qui passe toute la paroi. Toute la paroi, ouais, enfin...
Elle a dû hurler en criant ton nom.
Enfin, elle a hurlé, je répondais pas. Voilà, ensuite, elle a fait des choses qu'on sait pas comment on réagit dans ces cas-là, mais elle a appelé mes parents qui venaient... Moi, j'habitais à Chamonix à cette époque-là. Donc, moi, absolument pas obsédée par l'escalade ni la montagne. Ouais. Donc, c'est là où j'avais choisi de travailler. Et en fait, elle a appelé mes parents en disant, elle est morte, enfin elle est partie, elle est tombée et elle répond plus, en fait. Et c'est vrai que c'était et c'est intéressant, donc l'hélico qui fait toute la paroi du bas vers le haut, moi je suis réveillée par le rotor de l'hélico qui passe à portée à côté de moi, sachant que je me suis écrasée sur un décrochement de paroi qui était grand comme deux tables à manger, tu vois, enfin ce qui n'était pas énorme, donc je m'écrase là-dessus en 1000 morceaux. Et donc je suis réveillée par le rotor. Et là, en fait, c'était très bizarre. Je me revoyais là-haut, en fait. J'étais encore là-haut et j'étais en même temps en bas. Enfin, j'ai une espèce de truc. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Mais du coup, il y a eu un moment de bug dans ma tête où je ne savais pas si j'étais en vie ou pas, en fait. C'est plutôt ça le truc. Uh-huh. Et comme je pense que j'ai un fond un peu mystique ou quelque chose qui me dépasse, j'ai parlé à cette entité qui me dépasse en lui disant mais en fait, mais suis-je vivante ou pas en fait, mais si je suis vivante et si ce que je ressens dans mon corps c'est réel en fait, ben je préfère en fait mourir tout de suite. Enfin, je préfère qu'en fait stop, on arrête là.
Enfin, la souffrance était intense.
Ouais, tellement, ouais. C'était horrible. Et effectivement, j'avais trois membres sur quatre pétés, mais j'avais une jambe écrasée. Enfin, une jambe écrasée, c'est-à-dire j'avais... Tu vois mon pied, ouais. Mon pied droit, en fait. Donc, le genou et le tibia péroné ont explosé. Et en fait, le pied était 20 cm au-dessus, en fait, dans le genou, quoi. Donc, voilà, littéralement...
Oui, merci. J'ai compris, c'est possible de le dire gentiment. Merci, on a bientôt fini. Merci.
J'ai trop parlé.
Il peut nous le dire gentiment.
Ouais, donc voilà, bon bref, j'ai une jambe écrasée. Et alors, comment je veux mourir? Et en fait, bref, je vais essayer de faire court. Mais je sais pas, j'ai construit tout. J'en reviens pas d'avoir survécu. Et chaque jour est un bonus, déjà. Donc en fait, je pense que je me sens prête à mourir depuis que j'ai 20 ans. Parce que réellement, tout ce que je vis... C'est magique, en fait. Ça, c'est du bonus qu'on est en train de vivre. Mais comme hier, comme demain, chaque moment que je vis est un bonus, c'est une joie. Mais ça, c'est vraiment quelque chose... j'en peux plus d'être reconnaissante à l'univers chaque jour, de me faire vivre encore des jours supplémentaires. Et j'étais aussi dans cet état d'esprit, avant le compte. Mais en fait, depuis le compte, il y a cette espèce de truc qui s'est apaisé. C'est en fait, merci, mais vraiment merci l'univers de m'avoir... garder en vie jusque-là pour que je puisse lancer ce projet, lancer en fait cette éducation. Et maintenant, il y a 600 000 personnes qui sont à leur tour des relais et qui vont à la fois maintenant pouvoir éduquer à leur tour. Et en fait, on a lancé un truc qui ne s'arrêtera jamais. Et moi, je peux mourir, je peux disparaître, le compte peut s'arrêter. Et en fait, ce qu'on a lancé, ce train à grande vitesse d'éducation, de bienveillance, de positivité, d'amour, en fait, il ne va jamais s'arrêter. Alors maintenant, je suis prête à mourir.
Merci, Charline.
Et voilà, c'était Charline d'Orgasme et moi. Après Kairon, encore une incroyable réponse à la question « Comment aimerais-tu mourir ?» C'était fou. Merci Charline. Je ne vais pas rester longtemps en outro car je suis à Avignon et je dois me dépêcher de monter un extrait de la représentation d'hier à poster en reel sur Insta. J'espère que vous aimez bien ces petits moments d'interaction. Pas mal d'auditeurs dans le public, ça me touche énormément. Merci, merci infiniment de soutenir mon travail et d'écouter le podcast. Je vous embrasse.
Vous avez aimé cet épisode? N'hésitez pas à le dire en faisant une petite story, en taguant mon compte et celui du podcast @lesmecsquejeveuxken sur Insta. Vous pouvez également soutenir mon travail en venant voir mon spectacle, en lisant mon livre et en commentant sur YouTube les replays vidéo de mes chroniques sur France Inter. Je suis tous les mardis dans Zoom Zoom Zen. Merci, bisous.